Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la double peine pour le PSG, une défaite et une polémique signée Neymar.
Défaite de 2-1 à Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un doublé du nouveau prodige Erling Haaland pour les Allemands et un but précieux de Neymar côté parisien. Neymar qui a pourtant manqué de rythme selon l'entraîneur Thomas Tuchel. Le Brésilien n'avait pas joué depuis 2 semaines et c'est ça le sujet qui fâche Philippe Sanfourche.
Oui, le repos forcé du Brésilien pour une simple douleur aux côtes avait fait polémique avant la rencontre. Pourquoi 2 semaines sans jouer la moindre minute en match alors que Neymar s'entraînait chaque jour normalement ? En manque de rythme hier soir, le numéro 10 du PSG n'a pas apprécié et met directement en cause la direction du PSG. Au micro du groupe Altice.
C'est difficile de rester 4 matchs sans jouer. Ce n'était pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision. Ce sont les médecins. On a eu beaucoup de discussions. Moi, je n'ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi.
Une déclaration qui ne va pas aider à créer l'union sacrée dans les 3 semaines à venir en vue du match retour. Thomas Tuchel, l'entraîneur, avait déjà laissé entendre en pointillé qu'il subissait cette décision en interne. En confirmant la thèse, Neymar renvoie dos à dos Tuchel et Leonardo, le directeur sportif.
Philippe Sanfourche du service des sports d'RTL. Et dans la série Sale ambiance, sachez que le frère du défenseur parisien Presnel Kimpembe s'en est pris à Thomas Tuchel après le match. Il a critiqué son système de jeu en des termes que la décence nous interdit de reproduire. On dirait du Anelka, ça vous donne une idée. Match retour pour le PSG le 11 mars au Parc des Princes. Ce sera sans Meunier et sans Verratti qui sont suspendus. Cette soirée a également été marquée par la défaite de Liverpool, tenant du titre sur la pelouse de l'Atlético Madrid, défaite 1-0.
RTL Matin 8h02.
Il s'attendait à se retrouver derrière les barreaux. Piotr Pavlensky a finalement été libéré hier soir.
L'artiste russe qui revendique la diffusion de vidéos intimes de Benjamin Griveaux a été mis en examen pour atteinte à la vie privée et placé sous contrôle judiciaire, tout comme sa compagne Alexandra de Tadeo. Ce contrôle leur interdit notamment de se rencontrer. Pavlensky assure qu'il ne regrette rien et il entend poursuivre son action. Il sera convoqué ultérieurement dans l'autre affaire qui lui a valu une garde à vue, une agression au couteau le soir du 31 décembre. Par ailleurs, l'activiste a déjà fait de la prison pour avoir incendié une succursale de la Banque de France en 2017, quelques mois seulement après son arrivée en France comme réfugié politique.
Alors la France a-t-elle été trop vite en accordant l'asile à l'activiste russe ? Eh bien c'est la question du 8h.
Avec vous Thomas Proutot, bonjour.
Bonjour.
Alors Piotr Pavlensky a-t-il bénéficié d'un régime de faveur ?
Alors non, tout d'abord parce que sa demande d'asile en 2017 a été instruite dans des délais normaux, 5 mois, c'est dans la moyenne. Ensuite, d'après nos informations, parce que les menaces qui pesaient en Russie sur Piotr Pavlensky et sa compagne de l'époque ont été considérées comme réelles par l'Office français de protection des réfugiés, l'OFPRA. L'activiste avait en effet enchaîné plusieurs performances violemment anti-Poutine et une plainte pour agression sexuelle venait d'être déposée contre le couple par une jeune actrice russe. Un coup monté par le Kremlin, selon Pavlensky et sa femme, qui ont toujours affirmé que la soirée libertine passée avec la comédienne avait été consentie. Une agression avec violence, selon la jeune femme. Alors, impossible bien sûr pour l'Office français des réfugiés d'établir formellement la vérité. Mais après enquête, c'est bien l'hypothèse d'un piège des services russes qui a été retenu. Un piège pour faire taire Pavlensky. La France lui a donc accordé l'asile, et ce malgré sa réputation sulfureuse.
Et alors aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, est-ce que la France peut lui retirer son statut de réfugié ?
Non, pour cela, il faudrait que Piotr Pavlensky représente une menace grave pour la sécurité de l'État, c'est-à-dire qu'il soit suspecté d'espionnage ou de terrorisme. Pour les vidéos de Benjamin Griveaux et les violences qui lui sont aujourd'hui reprochées, l'artiste encourt uniquement les peines prévues par la loi française.
La question du 8h avec Thomas Proutot.
Passer son permis, c'est cher et souvent bien plus cher que ce qu'on avait prévu au départ. Pour en finir avec la jungle des tarifs, le gouvernement présente cet après-midi le tout nouveau contrat type pour les auto-écoles, contrat qu'RTL s'est procuré. Il s'agit de garantir une certaine transparence et in fine de faire baisser les coûts en évitant des facturations abusives. Une initiative qui fait bondir Philippe Colombani, il est le président de l'Union nationale des indépendants de la conduite.
Je trouve que cette décision, qui a été prise sans aucune concertation avec la profession dès le départ, est d'inspiration nord-coréenne et elle ne me convient pas. À partir du moment où on impose à toute une profession ce genre de pratique d'encadrement strict, ça n'a rien de libéral tout ça. Je me pose la question de savoir, mais qu'a donc fait cette profession pour être traité de cette manière-là. Moi, je veux bien entendre parler qu'il faut protéger le consommateur, mais moi, je prétends gérer mon entreprise comme je l'entends. Qu'il y ait des gens dans cette profession qui aient à un moment dérapé, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il y en a dans toutes les professions. Donc, pourquoi jeter l'opprobre sur celle-là et pas sur les autres ?
Le président des indépendants de la conduite, joint pour RTL par Thomas Dulin.
RTL, municipal 2020.
Et zoom ce matin sur la ville de Strasbourg, le maire sortant Roland Ries ne se représente pas.
Le socialiste a tenu la ville pendant 15 ans, appuyé sur la gauche plurielle, une gauche qui se déchire aujourd'hui pour l'héritage. Alors Roland Ries a fait son choix, il soutient le candidat En Marche, Alain Fontanel. À Strasbourg pour RTL, Yannick Collant.
Des manifestants syndicaux et d'extrême gauche qui sèment la pagaille à ses voeux et qui dégradent son local de campagne à chaque défilé contre la réforme des retraites. Début de campagne chahuté pour celui qui était le grand favori, Alain Fontanel, le premier adjoint au maire de Strasbourg, membre d'En Marche.
Il faut revenir au calme, retrouver la sérénité. Je ne me laisserai jamais intimider.
Mais surtout, Alain Fontanel est bousculé par une autre liste également issue de la majorité, les écologistes menés par Jeanne Barseguian. 38 ans seulement, un premier sondage les donne au coude à coude au premier tour.
Il y a effectivement un rejet d'une manière d'exercer le pouvoir, j'allais dire à la papa. Oui, on est sur deux visions différentes. Un côté peut-être l'envie de continuer comme avant, de verdir un petit peu sur les côtés. Et puis de l'autre, l'envie de transformer profondément notre ville.
Les Verts qui veulent végétaliser massivement les rues de Strasbourg en oubliant peut-être un peu vite qu'ils étaient en charge de l'urbanisme ces dernières années, Alain Fontanel.
Les Verts veulent construire la ville sur la ville, un peu sans limite. Il faut maintenant ralentir le rythme pour laisser plus de place aux espaces verts, pour que la ville puisse respirer.
Le Parti Socialiste lui a perdu son candidat, Mathieu Kahn, plombé par les révélations du site Rue 89 Strasbourg sur son passé de photographe amateur qui publiait des photos de jeunes femmes dénudées. Du coup, c'est Catherine Trottmann, l'ancienne maire, élue en 1989 et 1995, qui repart au combat face à la jeune génération.
Mais ça, bien sûr, ils vont pas me louper. Mais, mais vous savez, c'est pas ça qui me fait peur. Au point où j'en suis, je n'ai rien à prouver. Et modestement, je pense que je peux apporter mon expérience pour cette ville. Et je sais que cette expérience-là, elle est aussi précieuse.
À droite, Jean-Philippe Véter, 39 ans, le candidat des Républicains, dénonce un jeu de dupes. Pour lui, les Verts, les socialistes et les marcheurs, c'est du pareil au même.
Ces 6 dernières années, il y a eu plus de 2000 délibération du conseil municipal, ils ont voté ensemble à 99%.
La France insoumise avec Kevin Loquet et le Rassemblement national avec Ombline Duparc pourraient aussi espérer atteindre les 10% et se maintenir au second tour, ce qui pourrait donner une sexangulaire inédite à Strasbourg.
Une sexangulaire, c'est comme ça qu'on dit quand ils sont 6. Reportage RTL de Yannick Collant à Strasbourg, en lice aussi dans ce scrutin. Une liste citoyenne menée par Chantal Cutajar, une liste UPR menée par Nicole Hirn, une liste du Parti ouvrier indépendant et démocratique menée par Mathieu Le Talec et une liste lutte ouvrière avec Louise Fèvre. À l'étranger, face au coronavirus, la Russie frappe fort. À partir de jeudi, elle va interdire l'entrée sur son territoire à tous les ressortissants chinois. L'épidémie a fait désormais plus de 2000 morts. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se veut rassurante. Seul un cas sur cinq est un cas grave. Elle met en garde contre toute mesure disproportionnée. Et puis le Royaume-Uni va dévoiler aujourd'hui son nouveau système d'immigration post-Brexit. Un système à points qui donnera la priorité aux cerveaux brillants au détriment des travailleurs peu qualifiés. Pour obtenir un visa de travail, il faudra parler anglais et avoir déjà une proposition d'emploi avec un salaire minimum de 30 000 euros par an.
RTL Matin 8h08.
Pour certains, ce sont de grands moulins écolos. Pour d'autres, une nuisance. Les éoliennes font de nouveaux débats aujourd'hui.
Oui, car une proposition de loi doit être déposée prochainement pour encadrer leur implantation. Le député Les Républicains Julien Aubert voudrait instaurer un droit de veto pour les communes et surtout mettre plus de distance entre les habitations et les éoliennes. 1500 mètres au moins au lieu de 500 mètres actuellement. Une proposition qui ne fait pas l'unanimité. Exemple à Courcy dans le Calvados où un projet de parc éolien divise les habitants, Julien Caillard.
Oui, ce projet, le maire Didier Béraud l'a vu débarquer il y a un an.
Ce serait entre 5 et 8 éoliennes. Alors moi, je suis favorable parce qu'il y a 90 000 euros de recettes par an pour la commune. Ça double le budget actuel de la commune.
Problème, ce projet prévoit des éoliennes à moins de 1000 mètres des maisons. Alors forcément, cette proposition de loi, monsieur le maire n'en veut pas.
En fait, c'est un moyen d'empêcher la réalisation. Le fait de les repousser à 1500 mètres, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement plus d'espace en France possible. C'est pas très sérieux.
Un avis que ne partage n'est pas Frédéric Georges, le président de l'association de défense de Courcy, lui se bat contre ce projet.
On a un château du XIIe siècle, des éoliennes de 180 mètres à 600 ou 700 mètres de ces bâtiments-là, évidemment que ça va dégrader le paysage. Oui.
Un paysage que cette proposition de loi pourrait défendre, selon Frédéric Georges.
C'est très bien de pouvoir éloigner les éoliennes. Ça va diminuer les effets stroboscopiques, les effets du bruit. Pour l'amélioration du cadre de vie des habitants, oui, c'est un début.
Et en attendant l'examen de cette proposition de loi ici, le projet d'éolienne est devenu l'un des principaux enjeux des municipales.
Julien Caillard à Courcy dans le Calvados pour RTL.
Et tout cela fera l'objet de notre débat à 8h20. Faut-il davantage réglementer l'implantation des éoliennes? Nous serons justement avec Julien Aubert, le député LR du Vaucluse, auteur de la future proposition de loi, et Jean-Yves Candidier, qui est fondateur de France Énergie Éolienne.
François Hollande l'avait promis dès 2011, et cette fois nous y sommes. La centrale nucléaire de Fessenheim va fermer à partir de samedi pour le réacteur 1 et en juin pour le réacteur 2. Le décret vient tout juste d'être signé par le gouvernement, qui parle d'une première étape dans la stratégie énergétique de la France. Fessenheim était entré en service en 77, c'est la plus vieille centrale de France. L'EPR de Flamanville, lui, n'est toujours pas prêt. À Toulouse, deux policiers ripoux se retrouvent derrière les barreaux aujourd'hui en détention provisoire pour corruption. Ils sont accusés d'avoir passé l'éponge sur un excès de vitesse en échange d'une somme d'argent. Ce qu'ils ignoraient, Patrick Hisson, c'est que le conducteur avait enregistré leur conversation.
Oui, les faits remontent à la nuit de la Saint-Valentin lors d'un contrôle de police. Un livreur de sushis roule beaucoup trop vite pour ne pas être verbalisé et risquer de perdre son permis. Il accepte alors cette proposition de deux fonctionnaires, un gardien de la paix et un brigadier âgé tous les deux de 44 ans. Le PV disparaît à l'échange de quelques centaines d'euros, bien sûr en liquide. Ce que ne savaient pas les deux policiers, c'est que le chauffeur avait enregistré toute la conversation. Muni de cette preuve et accompagné du gérant de la société, le livreur décide alors de porter plainte. Quelques heures plus tard, les deux fonctionnaires sont identifiés et placés en garde à vue. Selon le procureur de Toulouse, ils ont reconnu les faits et aussi le partage de ce pacte de corruption. Tous les deux ont été placés en détention provisoire. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si les deux policiers avaient pour habitude de proposer ce type de transaction durant leur patrouille de nuit dans l'agglomération toulousaine.
Récit RTL signé Patrick Hisson.
Ça nous fait les ripoux 3 ou 4, je ne sais plus à ce niveau-là. L'histoire du jour.
Une histoire belge, Yves, ce sont les meilleurs. La Belgique qui a subi comme nous les tempêtes hivernales. Elles ont fait souffrir le palais des congrès de Liège qui a perdu quelques lettres sur sa façade. Alors après la tempête Kira, c'était devenu le palais des congres. De Nice a fini le boulot, il n'est resté que le palais des cons. Un peu vexé, sans doute, le patron du palais a décidé d'enlever les 3 dernières lettres parce que c'est dangereux, dit-il, et puis aussi pour éviter ce qu'il appelle des jeux de mots douteux. C'est pas douteux, hein?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'était le journal d'Isabelle Choquet.